Après une pause de quelques semaines, nous revenons ce matin. Je suis content de revenir à notre étude des chapitres 4 à 11 du livre de Genèse. Et avant d'examiner les versets devant nous ce matin, je crois que ce serait utile de résumer un petit peu. Ce n'est pas tout le monde qui était là pour ces prédications. Ce serait bien de résumer un petit peu de ce que nous avons vu jusqu'ici dans le récit du déluge. Quelles sont les leçons principales que nous avons apprises lors de notre étude du récit biblique du déluge? N'oubliez pas que ce récit est donné principalement pour que nous apprenions des leçons spirituelles, pour que nous apprenions des choses sur Dieu, sur nous-mêmes. Ce n'est pas simplement pour avoir des détails historiques, et nous croyons que ce sont bien des récits historiques, mais l'auteur veut que nous, et Dieu veut que nous apprenions des choses sur Dieu, sur nous-mêmes. Et la première chose que nous avons vue, c'est que le péché est grave. Vous vous rappelez, il y a un autre récit ancien du déluge qui dit que les êtres humains sur terre faisaient trop de bruit. Donc les dieux n'aimaient pas ça, donc ils ont envoyé le déluge pour détruire les êtres humains qui faisaient trop de bruit. Mais le récit biblique est très clair. Et le récit biblique nous dit que c'était à cause du péché que Dieu a envoyé le déluge. Le déluge nous montre à quel point Dieu est le péché. Il envoie le déluge comme jugement contre le péché et la rébellion de l'humanité contre lui. Nous lisons dans Genèse 6, 11 à 13, « La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. » Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. » Le lien direct entre la corruption du cœur humain et le jugement de Dieu. Et à l'époque de Noé, on s'est moqué des avertissements de Noé du jugement de Dieu. Même chose aujourd'hui. Le monde de Noé a cru que le péché n'était pas grave. Même chose aujourd'hui. Et peut-être même quelqu'un ici qui pense « Oh, le péché, c'est pas si grave que ça. » Ce récit nous dit le contraire. N'ayez pas de doute là-dessus. Le péché est grave. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que Dieu est non seulement un Dieu de jugement, mais aussi un Dieu de grâce. Dieu choisit de faire grâce envers Noé et sa famille. Il n'était pas obligé de le faire, mais il choisit de le faire. Verset 8 du chapitre 6, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce son jugement à Noé, mais tout de suite, il lui dit comment s'y échapper. Il donne des instructions précises pour construire une arche qui sauverait Noé et sa famille du jugement de Dieu. Il lui dit exactement comment le faire et comment et quand il allait juger le monde. Il donne à Noé le temps de bien préparer l'arche. Il lui dit quand c'est l'heure de monter dans l'arche, il ferme la porte de l'arche pour que Noé et sa famille soient en sécurité. Dieu agit pour sauver Noé. Et Dieu continue à agir pour sauver. Il continue à agir pour sauver des gens qui ne méritent pas son salut. Nous avons vu que l'arche était une espèce de préfiguration de Jésus. L'arche était le moyen sûr et certain de salut, donné par Dieu pour sauver du jugement contre le péché. Dans l'arche, il n'y avait pas de condamnation. La pluie du jugement est tombée sur l'arche et n'a pas touché Noé et sa famille. Et la pluie, si vous voulez, de Dieu sur le péché est tombée sur Jésus. Et ne touche pas ceux et celles qui sont en Jésus. Jésus-Christ est le seul endroit où on est en sécurité contre le déluge du jugement de Dieu. Et puis la troisième chose que nous avons vue, c'est la nécessité de la foi. Tout au long de l'histoire, nous avons vu une réponse de foi et d'obéissance de la part de Noé. Dieu lui a parlé d'un jugement futur. Il n'avait aucune expérience de ça, mais il a cru. Dieu lui a dit qu'il fallait construire une arche au milieu d'un pays aride. Ben, personne d'autre ne fait ça. Mais Noé a cru et Noé a obéi. Dieu a dit de monter dans l'arche et Noé a cru que c'était bien le moment et Noé a obéi. Il ne suffisait pas d'écouter Dieu, de comprendre Dieu, d'être d'accord avec Dieu. Il fallait, par la foi, croire et obéir. Et Dieu continue de nous parler du salut et du jugement. Il nous parle de sa grâce manifestée suprêmement en Jésus-Christ. Mais il faut venir à Jésus-Christ. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut obéir à l'appel de mettre sa confiance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas de savoir, oui, il existe. Oui, il est mort sur la croix. Il faut accepter par la foi, c'était pour moi. Il faut mettre sa confiance en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et vous voyez, alors les parallèles entre le récit de Noé, du déluge, et la vie du croyant. C'est une image de notre expérience en Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, vous êtes Noé dans un sens. Jésus est l'arche qui vous sauve du jugement de Dieu contre le péché. Et dans le chapitre 8, nous voyons encore des parallèles dans la vie de Noé et la vie du chrétien. Je vous ai déjà dit que l'auteur choisit un langage de la création du chapitre 1 pour décrire le monde après le déluge. Quand Noé sort de l'arche, c'est comme un nouveau début, un nouveau commencement, une nouvelle création. Noé sort de l'arche dans un nouveau monde. C'est un nouveau commencement pour l'humanité, pour Noé. Dieu, dans sa grâce, a sauvé Noé et sa famille du jugement. Noé sort de l'arche pour commencer une vie nouvelle. Et dans ce nouveau commencement de Noé, nous pouvons voir une image du nouveau commencement de chaque chrétien, de chaque personne née de nouveau. Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est pour ça que la Bible dit que devenir chrétien, c'est naître de nouveau. C'est un nouveau départ dans la vie. On est sauvé par Dieu pour vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et à partir de l'exemple de Noé, et surtout son sacrifice, je veux que nous voyons ce matin trois aspects fondamentaux de la nouvelle vie du chrétien. Au verset 20, Noé offre des holocaustes, il construit un autel à Dieu pour offrir des holocaustes. Et c'est cet acte de louange et d'adoration que je veux examiner avec vous ce matin, pour voir les parallèles avec la vie chrétienne. Le reste de l'Ancien Testament nous montre la signification des holocaustes offerts par Noé. De tels sacrifices représentaient trois choses principalement. D'abord, on offrait pour se consacrer de nouveau à Dieu, pour expier le péché et pour montrer sa reconnaissance. Donc, trois choses, on peut dire, que le chrétien fait quand il offre, quand il construit un autel dans un sens pour Dieu. Le chrétien, d'abord, se consacre à Dieu. Le chrétien est consacré à Dieu. Quand on se sert de son imagination dans cette histoire, c'est impressionnant. Hein? Imaginez les dévastations que Noé et sa famille ont vues en sortant de l'arche. Moi, je pense à des photos d'Hiroshima ou de Nagasaki après la bombe atomique. Vous avez vu des photos? Ou des photos que nous avons vues, les scènes que nous avons vues après les tsunamis. J'imagine que c'était quelque chose comme ça. Que pense Noé en sortant de l'arche? Où sommes-nous? Il n'a aucune idée où il est. Sommes-nous près de chez nous? Il ne reconnaît pas le terrain. Où est-ce que nous allons vivre? Comment est-ce que je vais construire une maison? J'ai pas de maison. On a une arche, mais on n'a pas de maison. Que ferai-je comme travail? C'est comme ça qu'il a pensé en sortant de l'arche? Non. Nous ne sommes pas obligés de conjecturer là-dessus. Parce que la Bible nous dit quelles étaient les premières pensées de Noé en sortant de l'arche. Noé construit, bâtit un autel à l'Éternel. La première chose qu'il fait. Tout au début de cette nouvelle étape dans sa vie, de cette nouvelle vie, Noé se tourne vers Dieu pour l'adorer, pour se consacrer de nouveau à Dieu. Noé se tourne vers Dieu pour dire, Dieu, tu as la première place, tu occupes la première place dans ma vie, tu es la priorité dans ma vie. Et quand on se consacre à quelqu'un ou à quelque chose, on dit haut et clair, cette chose-là, cette personne-là a la première place dans ma vie. On vit pour elle, avec tant de choses à faire. Noé donne la première place à Dieu. Il y avait plein de choses bien urgentes à faire, mais Noé se tourne d'abord à Dieu pour l'adorer. Se consacrer de nouveau à Dieu, c'est la priorité. Et c'est quelque chose que nous devons faire tous les jours. Même si on a plein de choses à faire. On commence la journée, on se tourne à Dieu et on se consacre de nouveau à Dieu. Et le fait de prendre des meilleurs animaux, les animaux purs, les seuls animaux qu'il avait à manger, là encore, Dieu, Noé montre que tout ce qu'il a, c'est à Dieu. Mais Noé, et ses enfants auraient dit, ça c'est notre nourriture que tu donnes à Dieu là. Oui, on donne ce qui est le meilleur à Dieu. La première journée après sa délivrance, après son salut, c'est consacré à Dieu. Et il y a plusieurs défis ici dans l'exemple de Noé. Noé nous montre que la vie chrétienne, c'est une vie où Dieu occupe la première place. En toute chose, notre première pensée, c'est à Dieu. Noé était un homme qui marchait avec Dieu, on a déjà vu ça. Donc il était constamment en communion avec Dieu, consacré à écouter sa voix, à chercher sa volonté. Il ne voit pas Dieu comme une pensée après coup. Ah oui, j'ai tant de choses à faire, mais il y a aussi Dieu. Ah, j'avais oublié. Non, ce n'est pas ça. Dieu, pour Noé, n'est pas comme un distributeur automatique. On y va quand on a besoin de quelque chose, mais autrement, on n'y pense jamais. On met des pièces, on reçoit ce qu'on veut et puis on oublie. Ce n'est pas ça pour Dieu, pour Noé. Il ne se sert pas de Dieu pour se dépanner quand les choses vont mal. Beaucoup de gens pensent à Dieu comme ça. Dieu est là pour me dépanner. Dieu est là quand je suis en difficulté. Mais quand les choses vont bien, on l'oublie. Ils veulent bien que Dieu les sauve de l'enfer, mais donner la vie à Jésus, consacrer sa vie à suivre Jésus. Ah non. Noé sait que Dieu lui a sauvé la vie. Il aurait péri sans Dieu. Dans un sens, sa vie est à Dieu. Et si vous êtes chrétien, vous avez été racheté par le sang précieux de Jésus. Vous avez été racheté par sa mort. Et vous êtes à lui. C'est l'argument de Paul aux Corinthiens qui voulaient vivre pour leur propre plaisir. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix, dit Paul. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous n'appartenez pas à vous-même, dit Paul. C'est tout le contraire du message de ce monde. Faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous plaît. Vous êtes votre propre maître. Vous êtes le chef. Noé met sa vie sur l'autel. Et il dit à Dieu, je suis à vous. Vous m'avez sauvé. Tu m'as sauvé. Je suis à toi. Il y a un chant, un cantique que j'aime bien citer. où on chante entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.
That doesn't translate into English. The French version, I think, is better. I give everything with gladness. Avec bonheur.
Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tout avec des grincements de dents. Tout à contre-cœur, non? Tout avec bonheur. Et ça vaut la peine de noter et de réfléchir à comment les fils, les enfants de Noé ont vu, ont aperçu une vie consacrée à Dieu. Ils ont vu comment leur père a cherché la volonté de Dieu. Ils ont vu comment il a pris plaisir en la parole de Dieu. Ils l'ont vu prier. Ils ont vu l'obéissance par la foi. Ils ont vu une vie entièrement consacrée à Dieu. Et voilà un défi pour nous qui sommes parents ou grands-parents. Est-ce que nos enfants voient ça? Un père, une mère, entièrement consacrés à Dieu. C'est un défi pour nous tous, même si on n'est pas parents. Est-ce que les autres voient en nous, nos enfants, les autres voient en nous que Dieu est plus important que tout dans notre vie? Est-ce qu'ils voient bien que nous mettons Dieu avant tout? Est-ce que vos proches voient Jésus en vous? Est-ce qu'ils l'entendent quand vous parlez? Est-ce qu'ils entendent Jésus quand vous parlez? Ou est-ce que vos proches voient quelqu'un obsédé par le monde, obsédé par les choses de ce monde, consacré à l'avance de sa carrière avant tout? Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un bon boulot, ce n'est pas une mauvaise chose de bien travailler, mais d'être obsédé, être consacré à ça avant Dieu, non. Est-ce qu'il voit quelqu'un consacré au plaisir, au confort? Si on demandait à vos proches, réfléchissez à ça. Si on demandait à vos proches, à les personnes que vous voyez régulièrement, est-ce que tel ou tel est consacré à quelque chose ou à quelqu'un, à votre avis, selon ce que vous voyez dans leur vie? Qu'est-ce que vos proches répondraient? Ah oui, celui-là, il est consacré à Dieu. Celle-là, elle vit pour Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que vos proches diraient ça? Noé est consacré à Dieu. L'Américain D.L. Moody était vendeur de chaussures quand un ami lui a dit « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu est capable de faire avec une vie entièrement consacrée à lui. » Il voulait dire que personne n'avait jamais consacré sa vie entièrement à Dieu. Et Moody a été interpellé par ça. Et lui, il a consacré sa vie à Dieu. Et il est devenu un des plus grands évangélistes de tous les temps. Et il y a des millions de gens au ciel parce que Moody a consacré sa vie à 100% à Dieu. Et des fois, on se demande pourquoi est-ce que nous voyons si peu d'impact dans nos quartiers? Notre témoignage est peu efficace. Moody brûlait pour le Seigneur. Son cœur brûlait pour le Seigneur. Et nous, est-ce qu'on est plutôt tiède pour le Seigneur? C'est pour ça que le monde ne voit pas des gens consacrés à Dieu. Le monde voit des priorités bien ailleurs. Est-ce que le monde voit une vie consacrée à la prière, à la louange, à l'évangélisation, à ceux qui sont perdus, à l'annonce de l'évangile à ceux qui sont perdus. Peut-être que vous dites, moi j'ai une vie chargée quand même. J'ai plein de choses à vivre. Noé, il n'avait pas de vie chargée. Il n'avait pas plein de choses à faire. Consacré veut dire mis à part pour Dieu. C'est ça être chrétien. C'est appartenir à Jésus. Être sauvé par Jésus, pour Jésus. Le chrétien se consacre à Dieu. En deuxième lieu, le chrétien confesse son péché parce que l'offrande de Noé, le sacrifice, c'était un sacrifice pour expier son péché. Dieu vient dans cette histoire d'effacer le péché de toute la surface de la terre. Noé pourtant trouve grâce devant Dieu, nous avons vu. Il s'échappe au jugement de Dieu contre le péché, mais l'holocauste qu'il offre montre qu'il sait très bien qu'il est encore pécheur. Et nous avons vu ça aussi dans notre passage où Dieu dit c'est dans quel verset? Oui, il dit dans le verset 21, le cœur de l'homme est disposé au mal, encore, malgré la punition, malgré le jugement. Donc, Noé sait très bien qu'il est encore pécheur. Pendant des mois passés dans l'arche, Noé aurait eu le temps de réfléchir à tous ceux qui avaient péri dans le déluge. En sortant de l'arche, il aurait vu des cadavres, il aurait vu des gens qui ont péri dans la punition de Dieu. Est-ce qu'il aurait dit, heureusement que je ne suis pas comme eux, heureusement que moi je suis bien, que je ne mérite pas, je n'ai pas mérité ce jugement? Non. Non, il est conscient encore de son péché. Oui, Dieu m'a sauvé, mais je suis encore pécheur. J'ai encore besoin de grâce, j'ai encore besoin de miséricorde, j'ai encore besoin de pardon. Et nous allons bien voir ça au chapitre 9. Nous allons bien voir le péché de Noé. Et le chrétien, bien que pardonné, bien que couvert par le sang de Jésus, bien que Dieu ait effacé sa culpabilité, bien qu'il n'y ait plus de condamnation pour lui, pour la personne qui est en Jésus-Christ, le chrétien sait qu'il est encore pécheur, qu'il est encore les restes de son ancienne nature. Il y a encore du péché dans son cœur. Et plus le chrétien avance en sainteté, plus il sait qu'il est pécheur, plus il voit la sainteté de Jésus, plus il se rend compte de combien il est encore pécheur, combien il est impur, combien le péché demeure en lui. Plus il avance, plus il voit combien il doit encore avancer en sainteté. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais j'imagine que chez vous, il y a de la saleté sous le frigo. On était chez quelqu'un ici récemment. Il n'y avait pas beaucoup de saleté derrière le frigo. J'ai regardé derrière le frigo qui était en panne. Il n'y avait pas beaucoup de saleté. C'était impressionnant. Il y en avait quand même. Mais en dessous aussi du canapé, du buffet, il y en a. Osez prendre une lampe de poche ce soir et vous serez choqués. C'est pire que vous ne l'imaginez. Et c'est comme ça avec le péché dans notre vie. Oui, je ne suis pas parfait. Oui, il y a du péché. Mais prenez la lampe de la parole de Dieu. Mettez-vous à côté de la lumière qui est Jésus-Christ. Et vous verrez que votre cœur est pourri. Il y a de la saleté que vous ignorez complètement. La saleté du péché, que vous ne savez même pas que ça existe. Et quand vous vous mettez à côté de la lumière, qui est la parole, vous verrez ça. Noé n'avait pas encore les psaumes, mais s'il avait eu les psaumes, il aurait chanté sans doute, « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Et le verset que nous avons cité au début, si tu regardais le souvenir, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Noé aurait dit, pas moi. Le chrétien est conscient de son péché et il confesse son péché. Est-ce que vous êtes vraiment conscient de combien vous avez besoin de grâce et de pardon? Ah bon, moi, ça fait des années que je fais partie d'une église. Prenez la lampe et cherchez bien. Est-ce que vous comprenez combien votre péché est odieux? This isn't in the notes. Dans des pays, il y a des gens qui sont mis à mort pour un seul acte de trahison. Combien d'actes de trahison contre Dieu avez-vous fait dans votre vie?
People are put to death in countries for one act of treason. How many acts of treason have we committed against God?
Combien nous avons besoin de grâce et de miséricorde. Jésus a donné un modèle de prière à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses. Il donne ça à ses disciples. Noé offre un sacrifice pour expier son péché. Confessez votre péché. Quelle folie de sous-estimer la gravité de notre péché. Regardez les mains de Jésus. Regardez les pieds et les côtes de Jésus. Regardez son sang qui coule. Et vous verrez combien le péché, votre péché, est grave. Le chrétien confesse son péché. Puis, pour terminer, le chrétien est reconnaissant. Prenez encore une fois la lampe et examinez vos conversations, votre esprit. Et voyez à quel point vous aimez vous plaindre. Encore une fois, peut-être que je me trompe. Voyez à quel point vous aimez murmurer. Imaginez Noé en train de sortir de l'arche et un journaliste, bien sûr il n'y avait pas de journaliste parce qu'il n'y avait plus personne sur la terre, mais un journaliste lui pose la question, alors Noé, c'était comment dans l'arche? Oh là 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 là, quelles odeurs terribles dans l'arche. Quel bruit terrible. Impossible, mon lit était à côté des hiboux. Impossible de dormir. Et puis les trois fils qui ronflaient. Et puis pendant un an, pas un seul mot de la part de Dieu. Pas un seul mot. On ne savait pas où on était, on ne savait pas où ça allait arrêter. On était perdus. Alors, ne me parlez pas de l'arche. Il aurait pu dire ça. Je pense que nous, on aurait dit ça.
Qu'est-ce que Noé aurait dit à un journaliste? Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a sauvé la vie. Dieu m'a appelé de la désobéissance. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Dieu m'a averti d'un futur jugement. Dieu m'a expliqué comment m'échapper de ce jugement. Il m'a montré comment construire mon arche. Il a fait grâce à toute ma famille, non seulement à moi, mais à toute ma famille. Il a bien fermé la porte de l'arche. Il nous a gardés en sécurité pendant un an. L'arche a tenu. J'ai envoyé des oiseaux pour savoir si je devais sortir. Dieu m'a montré le bon moment pour sortir. Sinon, je serais tombé dans la boue. Oui, il m'a fait patienter, mais c'était dans sa grâce. J'aimerais vous parler encore de la grâce, mais vous m'excusez, je dois lui rendre grâce moi-même. C'est ça que Noé aurait dit. Noé rend grâce à Dieu. Il est reconnaissant pour toute la grâce qu'il a reçue. Lui et sa famille, ils étaient en vie grâce uniquement à Dieu. Et c'est pareil pour le chrétien. J'ai lu quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Un commentateur a dit, le chrétien qui manque de reconnaissance est comme un oiseau qui manque d'aile. Il y a vraiment un gros problème spirituel dans le cœur du chrétien qui trouve toujours des raisons de se plaindre pour murmurer quand il y a un manque de reconnaissance. Il y a un gros problème spirituel dans le cœur de la personne qui est toujours en train de parler de ce qui ne lui plaît pas, au lieu de louer le Seigneur pour toutes ses bénédictions. On reçoit grâce sur grâce. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour sauver de l'enfer. Et on se plaint pour les petites choses.
Vous passerez l'éternité en la présence du Seigneur et vous vous plaignez d'un manque de ceci ou de cela ici-bas. Vous voyez le problème? Dieu verse ses bénédictions sur le chrétien. Il nous comble de sa grâce. Notre coupe déborde et nous passons notre temps à nous plaindre. C'est terrible de voir un chrétien qui se plaint au lieu de rendre grâce. Et les chrétiens occidentaux sont particulièrement coupables de ce manque de reconnaissance. C'est dans notre ADN. Noé, il n'en manque pas. Paul écrit encore aux Corinthiens, il dit, « Car en quoi penses-tu être supérieur aux autres? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? Tout ce que tu as, ne l'as-tu pas reçu de Dieu? » Et dans le psaume 103 que nous allons chanter tout à l'heure, « Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui m'arrache à la tombe, qui me comble de tendresse et de bonté. » Pourquoi se plaindre? Le psalmiste dit dans le psaume 116, « Loue le Seigneur. » Dans le psaume 116, il loue le Seigneur de l'avoir sauvé de la mort. Et il dit, « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. » Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Noé sort de l'arche. Il offre tout de suite des holocaustes à Dieu. Et il nous donne un modèle de consécration, de confession et de reconnaissance. Et juste pour terminer, regardez comment Dieu réagit. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Ce n'est pas l'odeur de la viande brûlée qui plaît à Dieu. C'est l'odeur du cœur de Noé. Il fait chaud dans cette pièce où je vis. Je n'ose pas demander quelle odeur monte de nous. Mais ce n'est pas ça qui est important. Même si l'odeur dans cette salle peut être désagréable, ça peut être agréable à Dieu. Si Dieu voit en nous une vie consacrée à lui, ça plaît à Dieu. Ah, c'est bon, il trouve ça agréable. Une vie qui confesse son péché, qui reconnaît son péché, qui demande encore pardon, ça c'est agréable à Dieu. Et un cœur reconnaissant, ça c'est agréable à Dieu. Je finis avec les paroles de l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 1. Et je me sers de ces paroles pour vous. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu nous aide à nous offrir en holocauste sur l'autel de notre vie. Amen.